sommes entre Loire et Loin, c'est l'heure du magazine du Gâtinais sur C2L. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter. Alors la semaine dernière, vous l'avez peut-être remarqué, la radio a connu quelques déboires techniques et nous n'avons donc pas pu diffuser l'émission qui était prévue. Cette semaine, nous sommes bien au rendez-vous avec toute l'équipe et avec tout plein d'invités du coup. Car ça y est, c'est les vacances d'hiver, elles ont commencé, les fêtes de Noël approchent très vite et évidemment, il y a plein de choses de prévues dans l'agglo, dans le Gâtinais, un petit peu partout. Nous avions parlé avec Benoît Digion, le maire de Montargis, du marché de Noël qui se tient dès aujourd'hui et pendant quelques jours du côté du boulevard des Belles Manières. Et dès aujourd'hui et jusqu'à demain, c'est également le marché de Noël de Chalette, place Jean Jaurès, qui ouvre ses portes. Il n'a malheureusement pas pu se dérouler l'année dernière, mais cette année, il est bien maintenu, et malgré la crise sanitaire, mais avec quand même des précautions. C'est Marie-Madeleine Hug, la maire adjointe, qui nous en dit quelques mots.
Le marché de Noël, on va dire, il est de retour.
Voilà, le marché de Noël aura bien lieu, sachant qu'on aura des contraintes très rigoureuses, le pass sanitaire, le masque obligatoire sur le marché, interdiction des rassemblements devant les stands, interdiction de dégustation, mais il y aura un endroit dédié pour que les gens puissent acheter sur le marché et aller déguster ensuite à un endroit qui leur sera bien dédié, bien précisé. Et donc, hélas, aussi pas de Père Noël, puisque on ne peut pas distribuer des bonbons, on ne peut pas toucher les enfants. Il y aura quand même de la rigueur.
Voilà, malgré les contraintes, vous avez tenu à maintenir ce marché.
Oui, puisque le contexte fait qu'on aura moins d'exposants, ce qui permet aussi d'espacer un petit peu plus les stands. Il y aura forcément moins de concentration du fait qu'il y aura moins de stands. Donc, ça aurait été vraiment dommage pour les commerçants d'être privés encore cette année du marché, d'autant plus qu'on aura des commerces de bouche de qualité, foie gras, champagne, escargot, saumon fumé, tout ça fait par des professionnels, du fait maison. On aura aussi des ateliers de le verre, des artisans. On aura vraiment une petite quarantaine d'exposants, mais que de grande qualité.
Et voilà, donc de la qualité, une quarantaine. Donc c'est le dernier week-end avant la festivité, donc tout le monde, bien sûr, est attendu malgré la rigueur mise en place.
Oui, puisque moi je pense qu'il n'y aura pas, c'est quand même en plein air, ce sera fluide. Il y a une entrée, un sens pour rentrer, un sens pour ressortir, avec du gel à l'entrée. Les commerçants auront aussi tous du gel, avec l'obligation bien sûr du masque pour tout le monde. Donc ce qui fait qu'en plein air, il n'y a pas de raison d'annuler ce marché, il n'y avait aucune raison de l'annuler.
Ça va être quoi les horaires d'ouverture ?
Alors, le samedi, ce sera 10h, 19h, et le dimanche, ce sera 9h, 19h.
Donc rendez-vous tout le week-end, place Jean Jaurès à Chalette pour ce marché de Noël avec plein d'animations, des déambulations, des fanfares, enfin plein de commerçants, des associations, etc. On va parler de plein d'autres choses au cours de cette émission. Restez avec nous et à tout de suite sur C2L.
Homem que diz do andar, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não dá, porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de um sanhacaipom. Coitado do homem. Let go, let go, no, you're a man, let go, go. amigo señor Sarapá, jango me mandou lhe dizer: se a canto de ossanha não pá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai constituir. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai constituir. Vai, 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 animal. Vai, 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 sofrer. Vai, 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 chorar.
Nous sommes entre Loire et Loin, merci de nous écouter sur ces deux ailes et merci de nous suivre en vidéo sur les réseaux, notamment sur notre page Facebook. N'oubliez pas de vous y abonner pour ne rien louper car il s'y passe toujours quelque chose. Tout comme il se passe toujours quelque chose dans le Gâtinais, d'autant plus que là, ce sont les vacances de Noël. Donc voilà, par exemple, du côté du musée Giraudet à Montargis où Patrice Avzard a rencontré Émilie Bell qui nous raconte tout.
Le musée Giraudet ici à Montargis, il est ouvert pour ses fêtes de fin d'année avec plein d'animations. Le public est gâté, on peut dire. Un beau cadeau pour lui.
C'est ça, effectivement. Nous avons prévu au musée Giraudet pour les vacances de Noël et au-delà une programmation riche pour tous. L'idée, c'est de venir passer l'hiver au chaud au musée. Nous invitons tous les visiteurs à nous rejoindre pendant la durée des vacances de Noël.
Et justement, donc, qu'est-ce que le public va pouvoir venir voir ici ?
Alors, plusieurs choses. Notre exposition « De la croix et le duel romantique » est encore en place, est encore présentée au musée jusqu'au 9 janvier 2022. Ce qui fait que, effectivement, nous avons proposé pas mal d'animations en lien avec cette exposition. Donc plusieurs choses. Déjà, un premier temps festif le samedi 18 décembre sur la journée avec plusieurs représentations d'un spectacle présenté par la Ligue d'improvisation de Touraine, Impro Tableau. Donc quatre comédiens hauts en couleur vous proposeront un voyage loufoque et décalé à travers les œuvres de l'exposition de la Croix et le duel romantique. Ça vous permettra, c'est un spectacle tout public et interactif qui vous permettra certainement de voir la peinture autrement. Donc venez nombreux, nous attendons avec impatience pour ce spectacle. D'autres propositions aussi, des ateliers, notamment de Line Art, les mercredis 22 et jeudi 23 décembre. Des ateliers de Line Art, donc qu'est-ce que le Line Art ? C'est une technique de dessin dont le maître mot, en fait, c'est la simplicité. Donc vraiment, il ne s'agit pas des professionnels du dessin pour venir à cet atelier. C'est un atelier qui est animé par l'association Ludique Art. Et vous aurez donc un artiste spécialiste de la technique qui sera là, qui sera présent lors de cet atelier, qui animera cet atelier pour vous amener à réinterpréter les tableaux à travers cette technique du dessin, du trait, la technique du line art. Donc ça, ce seront les mercredis 22 et jeudi 23 décembre au musée. Et puis encore plein d'autres propositions, notamment des visites, donc visites flash, c'est-à-dire autour d'une thématique de manière un petit peu particulière, voilà, et également une visite guidée découverte de l'exposition, animée par Sidonie Lemeufretteau, qui est commissaire scientifique de l'exposition « De la croix et le duel romantique ». Donc cette visite guidée, elle se tiendra lors du week-end de clôture de l'exposition, donc le samedi 8 janvier 2022. Voilà.
Le plein, encore d'autres choses justement, parce que le musée, il y a de quoi voir, il y a de quoi faire.
Oui, effectivement. Alors, il y a encore d'autres propositions, notamment des rencontres avec notamment Chiara Savetieri, qui est professeure à l'université de Pise et qui vous proposera une conférence autour de Giraudet et de Delacroix. Le mercredi 5 janvier 2022, voilà, une conférence qui pourra vous permettre de poser aussi pas mal de questions autour de cette thématique et autour de notre exposition temporaire. Un jeu de piste également, on repropose à nouveau, voilà, un jeu de piste au musée pour les vacances de Noël, avec un coffre-fort à l'issue et plein de surprises pour Noël. Donc n'hésitez pas à venir tester ce jeu de piste qui sera proposé sur la durée des vacances scolaires, en autonomie, en famille. Donc voilà, n'hésitez pas à venir tester tout ça.
Pour ces différentes animations, il y a une jauge, il y a des réservations à faire?
Oui, voilà, on a toujours des jauges au musée, donc n'hésitez pas à réserver auprès du musée, soit par téléphone, soit par mail. À noter aussi que le pass sanitaire valide et le port du masque sont toujours obligatoires au musée. Par contre, je note quand même que chaque premier dimanche du mois, le musée est gratuit. Donc n'hésitez pas à venir, notamment le dimanche 2 janvier. Le musée sera gratuit toute la journée, l'entrée du musée sera gratuite. Donc nous vous accueillerons avec plaisir à cette occasion. Et puis, bien sûr, tout le reste de la période, bien évidemment, également.
Et on peut le voir également, cette période de fête, on peut venir au musée, certes, visiter, et puis pourquoi pas acheter un ouvrage pour l'offrir, parce que on peut regarder à cet accueil, il y a de quoi faire, pas que sur les ouvrages, des petits goodies, plein de petites choses.
Oui, effectivement, n'hésitez pas à venir visiter notre boutique aussi. Là, je suis devant tout ce que nous proposons ici. Donc n'hésitez pas, effectivement, nous avons des catalogues, des goodies, plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous arrêter à la boutique également du musée.
Voilà pour ce qui est du musée Giraudet, mais il y a un autre rendez-vous traditionnel à Montargis chaque année pour les fêtes, c'est le Luna Park, place du Paty. Et là, c'est Titi Maudet qui nous en parle au micro de Patrice Avzard.
Ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu ce Luna Park ici à Montargis, ça fait du bien quand même de revenir.
Alors ça fait 2 ans, ou ça fait plutôt, pas vraiment 2 ans en fait, c'est une année qu'ils ne sont pas venus. Ouais. Donc ça fera 2 ans, oui, en rigolant, ça va faire 2 ans. On est bien contents. D'abord, financièrement, ça nous a vraiment pénalisés. Toute l'année a été pénalisée parce que nous avons arrêté en octobre pour redémarrer l'année après, fin juin. Et pour être encore bloqué, on va être encore assez bloqué parce que, bon, pour des raisons familiales, ben, moi, je suis bloqué, mais pas les autres. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, notre mairie nous a appelés. On fait le Luna Park. On va tout organiser, mais fort à m'en mêler. Il faudra vous monnayer tout avec moi. On va faire une belle fête et on fera des cadeaux comme d'habitude.
Combien vous avez réussi à mettre combien d'attractions en place pour cette année?
On est pratiquement pareil, sauf que j'ai changé des gens qu'on va punir, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas relevés. Hein, et donc, ils ont été obligés de jeter la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas pu continuer à payer leurs dettes. Donc, il y en a qui ont disparu, ils ont fait autre chose. Donc, j'ai remplacé par des collègues que j'ai pu téléphoner à gauche ou à droite. Ils m'ont dépanné gentiment.
Le milieu forain, attraction, il a été donc lourdement impacté par cette crise sanitaire?
Mais oui, financièrement, surtout financièrement, parce que les 3/4 des gens ont des manèges à crédit. Et puis les mêmes crédits ne repoussent pas sur 1 an. Les mêmes crédits, ça repousse 3 mois, 4 mois. Et moi, j'ai vu mon frère se retrouver avec 5 traites de retard. Parce que les mêmes crédits, il faut bien faire cadeau 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les 4 mois, il faut payer des autres. C'est comme ça. C'est des crédits compliqués. C'est des gérances-ventes et c'est des compliqués. Et il y a des gens qui n'ont pas pu s'en relever. Il y a des gens qui ont mis la clé sous la porte.
Donc en tout cas, cette année, vous êtes là. On va retrouver quoi ici comme attraction sur cette place du Paty?
Tous nos attractions habituelles, des manèges pour les grands, des manèges pour les moins grands, des manèges pour les familles, des jeux pour les enfants, des jeux pour les plus grands, de la dégustation, gaufre, crêpes, chichi, panini, il y a tout, et tout ce qu'il faut. Et puis des jeux de hasard pour les aventuriers, des boîtes à rigolade, des palais du rire, des mélanges de l'horreur. On va rester dans le classique et dans le familial surtout.
Voilà, c'est ça, c'est le familial avant tout ici.
Ah bien sûr, Noël c'est la famille, Noël c'est les enfants. C'est vrai qu'on est plus basé sur la famille que sur les grosses attractions. On n'a que 2 grosses attractions, c'est largement assez pour un petit village comme ça. Sinon, tout est basé sur la famille, et puis c'est Noël. Hein. Et nous, on s'est quand même attaché à vouloir faire quand même nos 500 petits paquets de Noël que nos forains se sont cotisés pour acheter tous ensemble. Et je vais m'occuper de ça encore cette année pour la 21e fois. Et avec mes frères, on va s'occuper de faire un bel arbre de Noël et nous distribuer 500 cadeaux gratuitement aux premiers enfants qui sont là, arrivés avec leurs parents. Et les autres, ben, ça sera pour l'année prochaine. On verra bien.
Oui, c'était ma question suivante, justement. Donc, toujours le côté donc, festif, ici. Et puis, les cadeaux, c'est la tradition, comme vous dites.
Festif et social. Parce que si on dit que les forains ne font pas de social, les forains font des journées à demi-tarif, les forains font des journées à tarif réduit, et quand on offre 500 cadeaux aux enfants, c'est aussi Noël, mais c'est aussi du social, c'est aussi donner un coup de main aux gens. On est là aussi pour faire plaisir à tout le monde, la fête est ouverte à tout le monde, riche ou moins riche, ou pas riche du tout, mais c'est comme ça qu'on peut réunir tout le monde, quoi. Et c'est important. La phrase, c'est « tant qu'il y aura des enfants, il y aura des manèges ».
Oui, voir les yeux s'écarquiller, s'émerveiller d'un enfant, il n'y a rien de plus beau.
Écoutez, j'ai 64 ans aujourd'hui, enfin, en ce moment, on va dire. J'aime encore voir les enfants heureux. Ouais. Quand mon frère a son petit manège qui est plein d'enfants à craquer partout, même si le bruit nous gêne, parce qu'on est vieillissant, de voir les enfants griller de joie, c'est un tel bonheur pour nous. Et puis de voir le petit Luna Park avec plein de monde dedans et que tout le monde est content de nous voir, ça nous rassure. On a encore quelques belles années. Hein, messieurs de la mairie, n'oubliez pas ça, hein, on a encore quelques belles années. Hein.
Cette année, c'est jusqu'à quand ici?
Je crois que c'est jusqu'au 9 janvier. Je crois que c'est 9 janvier. On va faire 6 week-ends. Bon, ben, le premier week-end, c'est une préparation, mais après, ça va démarrer. Que le deuxième week-end, il y aura 5 week-ends intéressants. Et à partir de la semaine prochaine, tout sera fait, la déco sera faite, et là, on va repartir sur une bonne base. Voilà.
Donc, on peut souhaiter qu'un bon moment ici sur ce Luna Park.
Oui, bah, pour nous, c'est du travail, mais pour les gens, c'est de l'amusement. Il y en a qui travaillent, ou les autres s'amusent. C'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Mais en tout cas, on est là, notre mairie nous a acceptés. On va faire du mieux qu'on va pouvoir, d'abord pour gagner notre vie et puis pour amuser les gens. Voilà.
Salut, c'est Patrice. Je vous donne rendez-vous chaque lundi et jeudi soir dès 23h pour une heure de musique pas comme les autres. Indus, cold, gothique, shoegaze, dream pop, dark, néo-folk. 60 minutes pour découvrir une autre musique, qu'on se le dise. Bonjour chez vous.
C2L.
Plus proche de vous.
C2L. C2L Radio. La radio de l'Est du Loiret.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin sur C2L. Merci de nous écouter. Alors, on a parlé des marchés de Noël qui se déroulent ce week-end, donc à Montargis, boulevard des Belles Manières, et puis à Chalette, place Jean Jaurès. Et la semaine dernière, l'émission qui n'a pas pu être diffusée, nous devions vous parler du marché de Noël de Châteaurnard, où plusieurs invités que nous recevions se trouvaient tout le week-end. Il s'agit du collectif Territoire d'écriture. Ce sont des écrivains, des écrivaines du Gâtinais, donc des gens qui écrivent des livres, qui peuvent être des idées cadeaux éventuellement, et des livres qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies de la région. Donc, voici un petit mot de leur part, au micro de Sandrine Manteau. Dans l'ordre, vous aurez Nadège Rento, Valérie Wolf-Rodriguez et Lionel de Raphaëlis.
Ah, bonjour amis d'entre Loire et Loin, excusez-moi, j'étais absolument absorbée dans ce petit bouquin adorable qui vient de sortir, qui s'appelle « Sweet et fin » et qui nous raconte les nouvelles aventures d'une petite héroïne montargoise qui a fait ses débuts il y a à peu près 2 ans, au moment du confinement. Et sa maman à cette héroïne, la petite reine, c'est Nadège Reneteau qui est là.
Bonjour.
Alors, Nadège, c'est le deuxième volume des aventures, en fait, de la petite reine. Raconte-nous.
Oui, c'est le deuxième. Donc là, je raconte le premier ou le deuxième?
Tu racontes
tout. Le premier. En fait, le premier a pris naissance l'année dernière au moment du confinement. Et pour pas péter un plomb, tous les jours, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait un dessin par jour, un dessin humoristique sur mon quotidien. Le quotidien de pour pas que je m'ennuie. Et je me suis dit, je vais le publier sur les réseaux sociaux pour garder le contact avec les amis et les copains. Et c'est en fait, il s'est passé qu'on m'a énormément suivie. Et au bout d'une dizaine de jours, j'ai tardé à mettre un dessin. Et là, j'ai reçu plein de messages qui me disaient « Mais il est où le dessin du jour ? Il est où le dessin du jour ?» Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas le choix. J'étais obligée de faire un dessin par jour humoristique sur mon quotidien pendant tout le confinement.
Alors voilà, parce que cette petite reine, c'est vraiment le clone de Nadège. C'est ça ? Tu lui fais dire les choses que tu n'oses pas dire d'habitude ?
Avec le dessin et l'humour, on peut se permettre de dessiner tout ce qu'on pense tout bas et qu'on n'ose pas dire ouvertement, là je peux dire des choses, je peux dessiner des choses comme je veux.
Et puis au bout d'un certain temps, il y avait assez pour faire un premier album,
oui,
c'est ça,
parce
Confidence.
On a eu 56 jours ou une soixantaine de jours de confinement, donc ça faisait un livre complet, et donc là ça m'a permis de sortir un album complet en couleur.
Un album qui s'est vendu à plus de 300...
Il y a eu 300 exemplaires.
300 exemplaires.
En moins de 6 mois. Non, mais c'est fou.
C'est fou. Habituellement, tu es peintre avant tout, tu es aussi dessinatrice, tu es prof de dessin également.
Oui.
Raconte-nous un peu.
Voilà, donc je donne des cours de dessin et de peinture, et puis on expose avec mon compagnon dans différents salons nos toiles, nos créations. J'ai aussi des commandes de portraits, de toiles diverses et variées. Donc ça, c'est mon travail principal que les gens connaissent le plus de moi.
Alors, dans Confidence, comme dans Sweet et fin, en fait, notre petite reine rencontre les commerçants de Montargis. C'est
entre
ça
autres, oui, donc dans ce deuxième de ces deuxièmes opus, en fait, là, on a le droit de sortir, on a le droit de vivre normalement. Donc la petite reine parle aussi de ses aventures, et dedans, On a nos maraîchers qui sont à Chalette. Il y a Doré Cacao, évidemment, qui est pratiquement dans tout le livre.
Alors, pourquoi tu dis évidemment?
Parce que Doré Cacao, c'est mon fournisseur officiel de pâte à tartiner.
Donc, voilà. Si c'est ton fournisseur, c'est aussi le fournisseur de la petite reine, voilà. C'est ça.
Donc, il fait une des meilleures pâtes à tartiner au lieu de mettre de côté pendant le confinement les rouleaux de papier toilette, moi, on avait mis de côté les petits pots de pâte à tartiner.
Alors, apparemment, c'est une pâte à tartiner qui est très digeste.
Oui.
Parce que Nadège a la ligne et la petite reine a la ligne.
Oui,
donc, ça, c'est très bien. Et alors, en fait, dernièrement, on suit aussi tes aventures d'artiste, ouais, sur les réseaux. Et tu as fait des vitrines, tu as peint des vitrines justement pour eux, c'est ça?
Alors là, oui, Doré Cacao m'a demandé de décorer la vitrine, leur vitrine pour Noël, mais avec les personnages de la petite reine. Donc, il y a la petite reine, Jean-François et son journal. Et les fameuses petites souris, qui sont devenues aussi deux personnages incontournables de l'album. Et il faut absolument que je les mette dans tous mes dessins, sinon on me les réclame. S'il n'y a pas les petites souris, voilà, j'ai droit à plein de petites réflexions.
Alors évidemment, petit clin d'œil pour le journal de Jean-François, c'est l'éclaireur. Alors pourquoi c'est l'éclaireur? Coucou l'éclaireur.
Parce que Jean-François achète l'éclaireur du Gâtinais toutes les semaines.
Et puis, l'éclaireur t'a suivi.
Et l'éclaireur m'a suivi. On achetait le journal par hasard et j'ouvrais le journal. Et là, je retrouvais un dessin de la petite reine. Ça m'a beaucoup fait sourire. J'ai beaucoup apprécié. Puis, ça faisait une petite promotion en même temps pour la petite reine.
Il y a ça. Raconte-nous, oui, cette histoire-là de cartes.
Alors, les cartes, c'est pareil. Ça, c'est une des commerçantes de Montargis, Mona de la Civette, qui a demandé à ce que je crée des cartes absolument pour Noël, notamment, et puis pour les fêtes de fin d'année, parce qu'elle trouvait que c'était original et que ça collait bien avec le Montargis et puis avec le personnage de la petite reine.
Alors, derrière toi, Nadège, il y a plein de camarades. Mmh. Ces camarades, c'est une partie de l'équipe, du collectif de Territoire d'écriture. Oui. Bah, alors, dis donc, si moi, j'oublie Territoire d'écriture, le nom, ça va pas. Tu fais partie de ce,
oui,
collectif. Ensemble, vous faites des dédicaces. Vous avez,
oui,
appris à vous connaître les uns les autres.
Oui. Donc.
Donc
voilà.
C'est sympa, c'était un petit clin d'œil. Et puis, je crois qu'il y a ton amoureux Jean-François aussi dans le lot.
Oui, il est derrière.
C'est ça.
Caché. Mais en fait, c'est comme dans le livre. Hein,
c'est voilà, le monsieur qui est là. Voilà. Il lui ressemble. Hein,
il n'a pas de journal pour se cacher, il a juste un masque pour se cacher. Et dans Territoire d'écriture, il y a aussi une écrivaine.
Oui,
voilà. Une écrivaine qui a fait la préface du livre Suite et fin. C'est Émilie Rigé. Et puis qui m'a un petit peu poussée aux fesses pour que vraiment je fasse sortir le deuxième, parce que c'était pas simple, et qui m'encourage encore à faire le troisième.
C'est ça, voilà. De toute façon, je pense que tu peux pas faire autrement, vu qu'Émilie parle du troisième, du futur troisième.
Dans la préface.
Voilà, mais comment tu vas la faire évoluer, ta petite créature, ta petite reine?
Il faudra acheter le deuxième et le troisième.
Voilà, bah, écoutez...
C'est même pas une question de voilà. Il faut même acheter le premier si vous n'avez pas le premier.
C'est très bien, ça tombe bien. Je crois qu'on est dans une période particulière pour les cadeaux. Moi, je dis ça, j'ai rien dit.
Et si vous l'achetez, en plus, je peux faire une dédicace, c'est-à-dire un dessin original que vous aurez dans le livre, en couleur.
C'est beau, ça.
Elle n'est pas belle, la vie? Alors, oui. Pour l'acheter, c'est simple. Il va être dans toutes les boutiques qui vendent des livres à Montargis. Donc, Librairie des Écoles, Librairie du Hérisson, La Civette... Et là, je vais être en dédicace à la Librairie des Écoles les deux samedis matins qui vont arriver. Et je vais être aussi à l'Office de Tourisme les deux week-ends qui arrivent. Et à Doré Cacao. Eh oui, à Doré Cacao. Pendant que vous faites la queue pour vos gâteaux ou vos pâtes à tartiner, eh ben, vous pourrez acheter un livre et avoir une dédicace.
Bah, c'est
avant
bon.
Noël.
Ben voilà, il y a du boulot. Hein.
Oui.
Bon. Merci beaucoup, Nadège.
De rien.
www.c2l-radio.fr.
Nous fêtons en ce mois de décembre les 1 an d'une jolie entreprise, d'une jolie idée, d'une jolie aventure humaine qui s'appelle Territoire d'écriture. Territoire d'écriture, c'est un collectif d'auteurs. Il y a 1 an de cela, pendant le confinement, certains citoyens, dont je fais partie, d'accord, je le dis, sont partis du constat que des femmes et des hommes avaient monté la dure montagne de l'écriture, produit des livres, obtenu des objets qui s'appellent des livres et se retrouvaient en cette période de confinement avec leurs livres dans des cartons. Alors, on est plus fort quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Et on a, grâce à ce collectif Territoire d'écriture, pu quand même organiser des séances de signature en cette période difficile, qui reprend d'ailleurs difficile, mais bon, on va pas en parler. Le fait est que 1 an après, Territoire d'écriture a beaucoup évolué et celle qui s'en occupe tout particulièrement, c'est Valérie Wolf-Rodriguez. Alors Valérie Wolf-Rodriguez, elle est correspondante pour l'éclaireur du Gâtinais et elle est également l'une de ses auteurs de livres à compte d'auteur, en l'occurrence, Valérie.
Non.
C'est ça? Non.
Alors, à compte d'éditeur, celui-là.
À compte d'éditeur, voilà. Mais en tout cas, voilà, tu as 2 livres à ton actif. J'avoue que j'ai pensé particulièrement à lancer Territoire d'écriture en corrigeant ton livre. Raconte-nous où on en est maintenant avec Territoire d'écriture.
Alors, on en est à plein d'idées parce qu'on continue avec Alphonse, vu que tu nous as refilé le bébé. Voilà. Et avec Alphonse, donc on est en train...
Alphonse Do,
du Bar du Donjon. On est en train de monter Territoire d'écriture en association pour pouvoir proposer sur des lieux de vente hors libraire, c'est-à-dire aller au Super U, mettre un présentoir Territoire d'écriture et pouvoir être le lien entre les auteurs et le lieu de vente, je dis Super U, mais ça peut être n'importe quel autre lieu qu'un éditeur, qu'un libraire. Parce que le libraire, il ne va pas travailler avec certains de nos éditeurs qui ne sont pas des éditeurs qui font une promo phénoménale parce qu'on n'a pas un nom écrit en gros sur la couverture. Et donc, on met tout ça en place pour pouvoir les promouvoir. Et pour pouvoir faire ça, il faut être sous une association pour des raisons bêtement administratives et fiscales.
Alors, à l'heure actuelle, il y a combien d'auteurs amis au sein de Territoires d'écriture?
Une vingtaine, je dirais 25, parce qu'ils ne sont pas tous fixes, mais il n'y a aucune obligation de dire « je travaille qu'avec Territoires d'écriture ».
Ah ben
non. Voilà, il n'y a aucune obligation. Donc, il y a une vingtaine qui répondent régulièrement aux dédicaces, qui se croisent, et puis c'est sympa.
Voilà, alors il y en a certains d'entre eux là, derrière nous. Hein. Il y a Claude Martin. Claude Martin qui a édité déjà 3 volumes d'un livre qui contient des cartes postales et des commentaires qui s'appelle Château Renard, images d'autrefois. Il y a également Christian Georges qui a sorti Un petit chez les grands qui nous raconte l'histoire du golfe Drouot. Et puis il y a Sylvain Gillet avec Comédia Nostra. Et puis le petit dernier s'appelle Lionel de Raphaëlis. Et on parlera également tout à l'heure de son livre. Voilà. Il y a eu combien de rendez-vous, il y a eu combien de dédicaces, en fait, de séances de dédicaces grâce à Territoire d'écriture?
Alors, je suis mauvaise élève parce que je n'ai pas révisé avant.
Mais ça a été intense, hein, quand même.
Ça a été intense et ça a commencé avec les nuits de la lecture, en fait, où chaque auteur a lu un extrait d'un des autres auteurs qui devait faire un petit truc sur Facebook. Et en fait, c'est devenu... Ça a quand même été pas mal vu, c'était joli. Ça a plu à tout le monde. Ça a fait connaître un peu aussi Territoire d'écriture. Et il y a eu, peut-être une dizaine de rencontres dédicaces, s'il y en a encore là, qui arrivent pour Noël.
Il va y avoir, entre autres, donc... demain, il y a Château Renard. Je ne sais pas... Non, ça sera trop tard.
Donne la date.
La date, on donne pas
de... Le 11 à Châteaurnard. Le 12 décembre à Chuelle. Le 18 et le 19 à Courtenay. et le 21 à Triguère.
Alors Triguère, c'est intéressant parce que Triguère, c'était le démarrage en fait de territoire d'écriture avec quand même la signalétique, c'est important, les gens vraiment...
Oui, qui ont bien identifié territoire d'écriture à Triguère, c'est vrai, voilà. C'est les premiers qui nous ont accueillis à bras ouverts.
Et dans une période qui était vraiment chaude.
Dans une période difficile, oui. Qui nous ont accueillis au marché de Noël à bras ouverts. Donc, on se devait de faire les 1 an à Triguère, au marché de Noël de Triguère, pour les remercier aussi.
Alors voilà, et ce qui est très joli dans cette aventure, c'est qu'on a vraiment des écrivains aguerris qui sont au sein de cette entreprise parce qu'ils trouvent ça mignon. Ils n'ont pas du tout besoin de territoire d'écriture pour exister. Exemple, Émilie, par exemple. Oui, exemple, Daniel Plaisance, évidemment. Et puis, des tout petits auteurs, tout mignons, des poètes. Je pense à Raoul.
Oui, Raoul, qui est arrivé récemment aussi.
Qui
a participé au concours de poésie auquel Territoire d'écriture a aussi participé, enfin a mis en place.
Oui.
Sur
et c'est comme ça qu'on a rencontré
Raoul.
Raoul.
C'est comme ça qu'est venu Raoul.
Voilà, ça c'est tout mignon. Ou encore, on le disait, Nadège Rento également. Quelques dessinateurs aussi. Il y a Richie, coucou Richie.
Il y a Calmire, qui est illustratrice aussi, qui fait coucou, des livres pour enfants, et on lui fait coucou. Et il y a même des gens qui nous ont sollicités, mais qui sont à Meung-sur-Loire. Donc on leur a dit non, territoire d'écriture, c'est un territoire. Ils sont à Nemours. Et c'est des gens du théâtre qui... ils écrivent pour le théâtre. Donc ça serait intéressant de les rattacher. Mais il faut qu'on reste sur un territoire pour le mettre en valeur. Parce que c'est le but aussi de territoire d'écriture, de travailler avec les auteurs locaux.
Mais en fait, on s'aperçoit, Valérie, que tout ça, c'est une sorte de... traversée du désert, on se sent très seul quand on écrit et ça fait bien du bien quand on rencontre ses pairs.
Ça fait du bien de se retrouver à plusieurs, de discuter de chacun sa problématique selon son éditeur, selon son parcours. Et c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver, de ne pas être tout seul, parce que la promotion, écrire c'est une chose, on est tout seul, mais la promotion, il faut aller au-devant des gens, il faut aller se vendre et ça, on ne sait pas forcément le faire. Donc à plusieurs, on est plus fort, on cède.
Alors on va parler de Valérie Wolff-Rodriguez en tant qu'auteur. Il y a eu les cartes postales et autres nouvelles. Ça, vous pouvez lui faire des yeux doux parce qu'il n'y en a plus.
Non, c'est en réécriture.
Et puis ça, c'était Un cœur gourmand, une très belle histoire de femme. Merci Valérie, oui. Ça c'était beau. Voilà, il en reste encore quelques-uns.
Oui,
voilà.
Il est commandable sur le site. Il doit y en avoir à la librairie du Hérisson. Il y en a encore au Tabac Le Royal à Châteaurnard et chez Denis à Chantecoq, qui a été le premier à nous soutenir pendant le confinement, pendant la fermeture des libraires. Il a dit venez les mettre chez moi. Et donc, il a vendu des livres des auteurs Territoire d'écriture, entre autres.
Alors voilà, alors peut-être qu'il y a la prochaine aventure que j'ai vraiment dans ma tête, ça serait de créer une librairie solidaire pour tous nos auteurs montargois. Trois petits points. À Château-Renard, j'adorerais ça. On verra.
Croisez les doigts.
Merci Valérie.
Va danser toutes les danses que tu veux dans les bras de celle que tu entraînes au loin. Va sourire des sourires merveilleux pour les danseuses dont tu tiens la main. Mais n'oublie pas que ce sera toi qui me conduiras ce soir chez moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Il y a quelquefois des refrains plus forts que le vin qui vous tourne la tête. Chantez, rire, mais je t'en supplie pour une autre que moi, ne donne pas ton cœur. Et n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Oh, garde bien la dernière danse pour moi. Comprends-moi chérie, je t'aime trop et je n'ai plus qu'un désir. C'est t'empêcher un jour de partir. Notre amour est trop beau. Allez, va danser. Tu peux t'amuser. J'attendrai le jour pour notre retour. Si quelqu'un veut que tu l'accompagnes jusqu'à la maison, dis-lui bien que non. Car n'oublie pas que ce sera toi
qui conduira ce soir chez moi. Garde bien la dernière danse pour moi. La dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse
pour moi. C'est de Zel Radio.
Chez ma grand-mère, on mange à l'ancienne, avec des menus qui nous paraissent pantagruéliques à chaque repas, mais qui relèvent pour la maîtresse de maison de la plus élémentaire normalité. Notre ordinaire se compose tous les midis d'une soupe, suivie d'un plateau de charcuteries et de crudités, qui précède elle-même une viande blanche ou une volaille destinée vraisemblablement à ouvrir l'appétit, pour la viande rouge qui suit, avec des légumes, une salade, des fromages et un dessert qui permettent de digérer. Le dîner est à peine moins copieux. La qualité des produits, dont on connaît la provenance locale, issue de terres et de pâtures encore vierges de tout traitement suspect, rajoute au plaisir de ces longues tablées qui se tiennent dans la fraîcheur bienvenue de la salle à manger, nous mettant provisoirement à l'abri de la canicule qui sévit souvent en ces périodes estivales. Ça, c'est chez vous, Lionel de Raphélis ?
C'était chez ma grand-mère, qui est morte depuis, qui est morte il y a déjà un certain temps, et qui était périgordine. Donc c'était un endroit où on allait tous les ans, au mois d'août généralement, et un petit peu en hiver également, et où j'avais été frappé effectivement par l'extraordinaire profusion de plats qui nous étaient servis et qui, pour ma grand-mère, étaient le lot quotidien. C'est ce que je raconte dans le livre.
Alors voilà, alors ces belles lignes, justement, sont tirées de Mémoires de guerre, de Lionel de Raphélis. Alors, doit-on dire Lionel de Raphélis le Loiretain ? Doit-on dire Lionel de Raphélis le Basque ? C'est difficile, Lionel, puisque vous avez fait là 800 kilomètres pour venir nous retrouver, nous les Loiretains. On s'est quitté il y a combien d'années, Lionel ?
Tout d'abord, avant de répondre à cette question précise, c'est une grande joie pour moi de revenir dans le Loiret, parce que j'ai vécu 25 ans dans le Loiret. J'ai exercé un certain nombre de responsabilités, comme certaines personnes le savent. Et j'ai eu pour ce territoire auquel rien a priori ne m'attachait un énorme amour. On peut parler d'amour. Bon. Mais il se trouve que mes racines sont du sud-ouest et que venu l'âge de la retraite, bien mérité, je pense, ma femme qui a les mêmes origines, avons décidé de retourner dans nos terres d'origine. Quoi. Bon. Mais c'est un vrai plaisir que de revenir ici pour participer à Territoire d'écriture. Je ne saurais trop remercier Valérie de m'avoir permis de rejoindre ce collectif que je trouve très sympathique et auquel j'essaierai de me joindre le plus souvent possible, malgré les kilomètres qui nous séparent.
Alors, parlons quand même un petit peu du parcours de Lionel de Raphélis, en tout cas ce qu'on en sait ici dans le Loiret. Lionel de Raphélis a été élu municipal, maire d'un joli village, d'un très joli village qui s'appelle Saint-Hilaire-les-Andrézies, dans le Curtinien, baigné par cette magnifique rivière de première catégorie qui est la Cléry. Je pense qu'il va nous parler de nature parce qu'il adorait cette nature. Et puis, il a également été président de nombreux EPCI, comme vous disiez à l'époque, c'est-à-dire des communautés de communes successives. Et puis également le Pays Gâtinais qui est devenu par la suite le PETR. Alors, un petit mot sur le passé, Lionel.
Ben, le passé, c'était... Je suis venu ici, enfin je le raconte dans mon livre, hein. Je suis venu ici parce que je suis tombé en extase devant ce pays dans lequel je suis venu la première fois en 1972, donc c'est pas d'hier. Et puis de fil en aiguille, lorsque j'ai cessé mes activités que j'exerçais à Paris, je suis venu m'installer ici, c'était dans les années 95. Et puis, comme je m'intéresse beaucoup à ce qui m'entoure, tant au point de vue de la nature qu'au point de vue des personnes, je n'ai pas tardé, comme tu le sais, effectivement, à m'engager dans la vie locale. Bon, et j'ai eu l'immense plaisir d'être maire d'une petite commune que tu as citée, que j'aimais beaucoup, dans laquelle je suis... c'est la porte, en fait, d'entrée dans le territoire de ma part, puisque c'est le premier endroit du Loiret dans lequel j'ai posé mes guêtres. Et de fil en aiguille, j'ai effectivement eu un certain nombre de responsabilités, bon, que tu as eu la gentillesse de citer. Bon. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler pour ce territoire que j'aime beaucoup. Et tu as cité ma sensibilité environnementale. Et c'est vrai que j'ai, en particulier dans le cadre du Pays Gâtinais, j'ai essayé de donner une impulsion environnementale à ce pays à travers un certain nombre de politiques que j'ai mises en place avec mes collègues élus. Et je pense que ça a quand même bien marqué le territoire parce que ces politiques continuent de prospérer et pour le plus grand bien, je crois, des rivières, des agriculteurs, des productions du territoire.
Alors, c'est un bilan, Lionel, ces mémoires de guerre comme naguère.
Oui, non, alors...
guerre oui. Comme pas grand-chose, alors c'est quoi?
Alors, c'est en fait, c'est les deux. C'est d'abord de pas grand-chose. En fait, le fil conducteur de ce roman, en fait, un roman, c'est un mémoire, bon. Le fil conducteur, c'est que je voulais comprendre quels étaient les ressorts qui avaient construit ma personnalité, sans faire du tout c'est pas un livre qui tourne autour de moi, hein, c'est pas du tout ça. Mais, parce que c'est également des choses qui pourraient servir à d'autres gens, à d'autres personnalités. Je me suis demandé pourquoi j'avais la personnalité que j'avais, bonne ou mauvaise, peu importe, je ne réponds pas du tout à cette question. Et je me suis aperçu en fouillant un peu dans mon intérieur que il y a des événements dans ma vie qui ont marqué cette personnalité. Ces événements sont parfaitement anodins, pourraient paraître tout à fait inintéressants s'ils n'avaient pas eu les répercussions qu'ils avaient eues dans la construction de ma personnalité. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce roman « Mémoire de guerre », guerre de pas grand-chose, des événements anodins, mais qui pour moi ont une grande importance parce qu'ils sont à l'origine de beaucoup des traits de ma personnalité.
Et mémoire de guerre, alors c'est aussi un jeu de mots avec les mémoires du général de Gaulle.
Alors c'est effectivement un clin d'œil prononcé à l'égard du général de Gaulle parce que j'ai été bercé dans la culture du général de Gaulle dans ma jeunesse et j'étais dans une famille qui était très gaulliste, très résistante et ça a bercé ma jeunesse et je suis resté toujours fidèle à, pas forcément à la politique du général mais au rapport qu'avait le général avec la politique.
Alors en fait, Lionel, donc vous parlez de politique là-dedans, vous parlez de toutes sortes de politiques d'ailleurs. La politique, remember quand même. Vous évoquez Giscard d'Estaing, vous évoquez Mitterrand, donc vous avez des considérations. C'est des considérations d'hommes politiques sur d'autres hommes politiques ?
Non, en fait, le chapitre dans lequel j'évoque effectivement les présidents successifs de la Ve République est un chapitre qui de ma part, veut signifier que le général de Gaulle n'a pas eu de successeur à sa taille. Voilà, donc je les cite les uns après les autres. J'essaye d'être très objectif, c'est-à-dire je pense que tous les individus sur Terre ont des qualités et des défauts. Et mon objet n'est pas du tout de dire un tel est un idiot et un tel est une merveilleuse conception de l'univers. Bon. Mon problème, c'est simplement de dire qu'il y a une forme de hiérarchie dans la qualité des hommes d'État. Et je pense que le général de Gaulle, c'est une opinion tout à fait personnelle, n'a jamais été rejoint dans sa stature. Voilà. Bon.
Moi, vous ne prenez pas beaucoup de risques non plus en disant ça.
Non, je pense que les choses ne vont pas s'améliorer d'une certaine manière.
Bon, alors, c'est le Mémoire de guerre, c'est aussi, je pense, un livre qui aborde plusieurs terroirs. On a démarré par donc ce terroir périgourdin, qui est le terroir de votre grand-mère, Lionel. Et puis donc, vous abordez aussi le terroir du Pays Basque. Vous parlez du Pays Basque.
Oui, oui.
Et puis, vous parlez aussi, encore une fois, de votre Loiret.
Non, c'est toujours le fil conducteur. Je parle du Pays Basque parce que je ne suis pas basque. Le basque, c'est une chose, un espèce d'ovni dont on ne sait pas d'où il vient, dont on ne sait pas de quelle origine est sa langue, dont on ne sait pas pourquoi il est au Pays basque. Bon, c'est une vraie interrogation, le basque. Hein. Et je ne suis pas basque de sang, mais je me sens basque de cœur, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi je me sentais basque de cœur. Je vis au Pays basque depuis je suis né. Je suis né, pratiquement né là-bas. J'ai été créé là-bas. Et voilà, bon. Mais c'est encore à nouveau ce fil conducteur. Pourquoi aimais-je le Pays basque ? Alors j'essaye de répondre à cette question. Alors, et en matière de politique, puisque tu as cité la politique, mon problème n'est pas de dire que telle sensibilité politique est meilleure que telle autre. Ou que, bon, c'est pas du tout mon problème. Moi, j'essaye toujours d'être objectif. J'ai eu des rapports politiques de la meilleure qualité avec la plupart des gens, quelle que soit leur sensibilité. Mon problème est de dire que quand on fait de la politique, il faut avoir des critères très précis pour l'exercer dans de bonnes conditions. Être honnête. Ça paraît ridicule de le dire, mais je crois qu'il faut le dire, parce que c'est pas toujours vrai. Et puis, il faut travailler des choses qui devraient être évidentes. Mais si on lit le bouquin, qui ne le sont pas toujours.
Hein. Alors, il y a d'autres choses. On parle de chasse, parce que vous avez été un grand chasseur, vous aimez la chasse. On parle de tauromachie. Vous défendez quand même votre amour de la tauromachie.
Alors, c'est également un problème. C'est une chose qui m'intriguait chez moi. J'ai une passion pour les animaux. J'ai toujours eu des animaux.
Vous en parlez aussi, d'ailleurs.
Voilà. Et cependant, j'aime la chasse et j'aime la tauromachie. Donc, il y a une espèce de contradiction totale. Parce que comment peut-on aimer des animaux quand on accepte de regarder des spectacles où ils sont de toute évidence maltraités ? Bon. Alors, en fait, je ne me couvre pas du tout de laurier dans ces chapitres-là. Hein. J'essaye de comprendre.
Non, mais vous essayez de comprendre.
Et j'essaye de comprendre et j'essaye de démontrer que s'il y a peu d'arguments, si les arguments en faveur de la tauromachie ne sont pas opposables, parce qu'ils ne sont pas du même niveau à ceux que développent à juste titre les adversaires de la tauromachie, il y a quand même des éléments dans la tauromachie, ne serait-ce que sur le plan de l'expression artistique qu'elle a suscité, il y a quand même des éléments dans la tauromachie qui peuvent permettre de rendre moins insupportables les gens qui acceptent de participer à ce spectacle. Voilà.
D'ailleurs, il y a les pages durant lesquelles il y a le torero qui est en train de s'habiller.
Oui, c'est un très grand souvenir. Oui.
Et ce sont de très belles pages.
Oui, c'est un très grand souvenir parce qu'on n'imagine pas, je crois, le courage. Enfin, c'est courage. Cette espèce de d'épouvantable frayeur, enfin, qu'on ne peut comprendre que si on assiste à cet habillage. C'est une peur qui se matérialise presque dans l'air qu'on respire. C'est extraordinaire. Je crois que c'est quand même une forme de courage de la part des gens qui s'exposent contre ces animaux. Alors, je sais très bien qu'encore une fois, c'est des arguments qui ont du mal à passer, mais j'essaye de montrer tous les côtés de la lorgnette, si vous voulez.
Alors, autre chose, Lionel, vous êtes un homme, je crois, d'une grande pudeur, mais à la fin de ce livre, il y a quelques confidences. Vous regardez dans le rétroviseur, vous parlez de votre vie d'homme, le fait que vous n'ayez pas eu d'enfant, etc. C'est très cash, ce que vous dites.
Je crois que il y a plusieurs... Quand on écrit, on cherche à régler plusieurs problèmes. Alors, ça peut être une expression artistique, purement artistique, en faisant soit des dessins, soit commentant des cartes postales. J'ai entendu parler de ça tout à l'heure. C'est une chose qui relève purement de l'art, de la belle manière d'écrire. Et puis, il y a des gens qui écrivent pour se questionner. Il y a un âge où on pense, bien entendu, que la fin arrivera un jour ou l'autre. Et on se questionne sur le parcours qu'on a vécu. Et on ne peut pas se questionner sérieusement si on ne va pas au bout. Il faut être sans aucune retenue. Enfin, il y a quand même énormément de retenue.
Bon.
Mais il faut être sans concession. Si on n'est pas sans concession, on n'est pas honnête. Hein. Donc l'écriture, c'est également une thérapie pour aller chercher au fond de soi un certain nombre d'éléments qu'on ne dit pas dans la vie courante, qu'on ne dit pas dans la vie de tous les jours. Donc c'est également le bonheur d'écrire, c'est également cette recherche, cette espèce de...
Bon, voilà. Je pense que c'est votre premier ouvrage, vraiment, Lionel. Mais je sais que l'art d'écrire, vous l'avez pratiqué toute votre vie. Je me souviens de très longs discours extraordinaires et très creusés, justement, quand vous étiez élu. Et donc, c'est tout naturellement que vous êtes allé vers la publication d'un livre.
Quand j'ai pris ma retraite définitive et que j'avais plus d'activité, je me suis dit, je vais faire, soit je vais pêcher à la ligne, hein, encore cet attrait morbide pour une fin prématurée des animaux, je m'en excuse. Bon. Soit je vais peindre, parce que j'ai également, ma sœur est peintre, mon père était peintre, enfin, c'était pas son activité première, mais il avait j'avais une de mes tantes qui était une peintre assez renommée, bon. Et moi, j'avais quelques qualités modestes, mais enfin, que j'aurais pu essayer de magnifier, bon. Et soit j'écris. Et puis, quand je suis arrivé, on n'avait pas le droit de sortir, etc. Donc, pour peindre, j'allais pas peindre mon salon 15 fois, bon. Et bien, je me suis mis à écrire, voilà.
Bon, bah c'est bien. Donc,
je pense que j'ai pris le virus, oui.
Voilà. Je pense que vous êtes tout à fait le bienvenu au sein de Territoire d'écriture.
En tout cas, je vous suis très reconnaissant de m'y avoir intégré.
Donc voilà, Lionel de Raphélis se trouvera en chair et en os au marché de Noël de Château-Renard. C'est ce samedi 11. Donc, ça sera peut-être trop tard, c'est ça. Mais alors, on le verra quand, je ne sais pas. Mais nous, ici, à Territoire d'écriture, on aura de toute façon ces livres. Messieurs, dames de Territoire d'écriture qui nous avaient fait le plaisir de venir suivre cette émission. Eh bien,
si tu me permets, il est distribué par Hachette. Hein, donc, on peut le retrouver chez Amazon, bah oui, chez Fnac, chez De Citre, chez Chapitre.
Voilà, c'est Véron Édition.
Cultura, etc. Bon. Normalement, si on a la patience, si on a d'abord l'appétence pour le commander, ce qui n'est pas forcément évident, et si on a la patience d'attendre le retour de la maison chez qui on le commande, sous 8-10 jours, on doit l'avoir chez soi.
Merci Lionel, et puis bon séjour
dans
Sandrine, Loiret.
Merci Sandrine, merci de votre accueil.
Nous étions entre Loire et Loin, merci de nous avoir écoutés sur ces deux ailes. Et je vous rappelle que toutes ces interviews que vous entendez au fil des semaines sur ces deux ailes sont en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, laissez-nous un petit mot. Alors, nous aurons quelques surprises pour vous hein, pendant les fêtes sur cette page Facebook. Parce que côté radio, il n'y aura pas de nouvelle émission avant le mois de janvier. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous suivent que sur ces deux ailes, ben, je vous dis tout de suite bonnes fêtes à toutes et à tous. Pour les autres, ben, rendez-vous à très vite sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe, Patrice, Sandrine, Anita. C'était Pascal Weber au micro et à la réal. Bon week-end à l'écoute de ces deux ailes. Jet plane.